Jean Lorrain, Les yeux glauques, exergue d'Henri de Régnier. Masque pâle, sans au front une pierrerie, ni funèbre laurier au-delà de la mort, j'ai vu vivre les yeux, tes yeux, ô pierrerie, et je sais le passé que ton silence dort. Henri de Régnier. Oh, ça, mais qu'est-ce que vous lui trouvez quelque chose d'extraordinaire, cette femme? Moi, je la trouve vieille, maquillée, architeinte. De la taille de l'allure, soit, et encore de la taille. Elle s'empâte joliment, la belle Nélifora. Et s'abandonnant dans son rocking chair, le petit marquis de Northsalls laissait monter de sa cigarette une longue spirale bleuâtre, dont le léger encens faisait comme une gaze dans le blanc cru du ciel. « Oh oui, Serge, je suis bien de ton avis, Stani. Je n'ai jamais compris, moi, quel piment on pouvait trouver à cette femme. Je l'ai toujours connue anguleuse et plate, un teint de morte et pas plus de hanches que sur le dos de ma main. Une pareille maîtresse. Elle était jeune alors, mais j'aurais autant aimé une anguille. Eh, fortuné, ne dites point du mal des anguilles. Leur souplesse a du bon. C'est un vicieux, Chauchat, nous le savons, mais pour les gens honnêtes, à goût avouable et reconnu par la loi, le mérite d'une femme est d'être vraiment femme, et non de rappeler je ne sais quel équivoque de sexe ou de poisson. Oh, vous avez beau dire, des malins qui vous valent bien, messieurs, n'en ont pas moins évoqué des patrimoines, croquer des patrimoines pour sa taille plate à Neuilly-Fora. Et alors qu'il est, essayez donc de prouver au petit attaché de l'ambassade russe qui l'accompagne que son idole a passé l'âge des adorations. Bon, reprenait Fontenay, qu'est-ce que cela prouve? Tous les pays ont leurs fous. Et puis les femmes et la bourre, moi, je suis là-dessus de la vie du reste, poète qui disait « Va, tu ne fus jamais, dans les jours les plus rares, qu'un banal instrument sous mon archet vainqueur, et comme un air qui sonne au bas creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur. » Oh, le rêve et l'archet vainqueur de Fontenay, elle est bien bonne, s'esclaffait le gros Chauchat, en caressant le poil de sa barbe soyeuse. « Puisque tu cites des vers, je vais te servir du chamfort. Salut, chamfort, non, mais prends ça pour toi. Il faut choisir d'aimer les femmes ou les connaître. Il n'y a pas de milieu. » Et tandis que la conversation s'animait et s'aigrissait dans le groupe des fumeurs attardés sur cette terrasse du casino de Dieppe, devant la mer ensoleillée aux luisances de miroirs, et sans qu'aucun d'eux parût se soucier de la cloche du dîner, sonnant le branle-bas dans tous les hôtels échelonnés le long du boulevard, un grand garçon d'une trentaine d'années, au visage de santé balafré d'une longue moustache rousse, et qui n'avait pas encore soufflé mot, le regard ailleurs et comme absorbé dans la contemplation de l'horizon, Michel Stourdoff, pour l'appeler par son nom, tournait lentement sa face carrée vers les deux plus enragés des détracteurs de Nelly, et d'une voix chantante et douce, une anomalie dans ce grand corps, détachait nettement ses mots. « Cette pauvre Nelly, oh, je l'ai beaucoup connue. Avez-vous remarqué ses yeux ?» La phrase sonnait si étrange dans la bouche de ce colosse, généralement indifférent à tout, que tous les sièges avaient fait volte-face dans sa direction, car naturellement nos Parisiens tournaient presque tous le dos à l'océan et aux 20 kilomètres de fuyantes falaises se dégradant à l'horizon. Nourinaskin, celui qui se ruine en ce moment pour elle. Et votre compatriote, Michel, essayait de persifler le petit donnant sans russe. Oui, il est de Moscou. Il est aussi mon ami, nuançait lentement le slave. Mais cela ne fait rien. Je parle de Nelly. Je n'avais jamais vu, bien regardé ses yeux. Je parierais, n'est-ce pas, Marquis ? Ses yeux, faisait Salus interloqué. Le moyen de les voir, ses yeux. Elle marche enveloppée dans une moustiquaire. Un kilomètre de tulle et de gaz qui l'engonce et lui fait une figure de nuage. Vous avez vu, vous, ses yeux ? Ben, vous avez de la chance. Il y a longtemps, hein ? Mais hier encore, j'ai dîné avec eux. À la villa des Thiers ? Oh, vous êtes un vénard. Et Nord Salus se tournant vers le groupe. Il paraît que c'est d'un luxe. Des cordons d'orchidées serpentant sur les nappes, des couteaux en vieux sacs et du cristal de roche gravé au lieu de vaisselle plate. À quoi l'imperturbable Stourdoff. Je vous y conduirai, monsieur, de bon sens, et si cela peut vous être agréable. Avant 3 jours, vous y aurez dîné. Ah oui, et j'aurai vu ses yeux, ses invisibles yeux, qui tiennent du miracle. Ripostait le marquis. Eh bien, soit, j'accepte. Elle a peut-être un teint, après tout. Est-ce qu'on sait, sous son voile, puisqu'elle a des yeux ? Elle a un très joli teint, déclarait Stourdoff de sa voix caressante, et pourtant implacable. Et ses cheveux sont naturels ? Interrogeait railleusement le marquis. Non, ce sont les cheveux des autres qui sont teints, reprenait lentement le slave. Il y a 15 ans que je connais Nelly. Oui, ils étaient plus dorés, plus lumineux encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pourtant, quand Nelly se coiffe le matin, elle peigne l'aurore. Mais vous en êtes amoureux, fallait le dire, déclarait Salus. Non, non, pas moi, mais... Un autre qui est mort, un mien ami à moi, pour l'amour de ses yeux. Mais c'est toute une histoire, interrompait Fontenay, essayant de rompre court. Monsieur, je crois qu'il est l'heure de dîner. Et il se levait, donnant le signe du départ. On l'imitait, mais on était piqué au vif. Le « c'est toute une histoire » de Michel Stourdoff, qui ne semblait pas d'ailleurs avoir plus envie que ça de la raconter, son histoire avait aiguillonné toutes les curiosités. Tout en regagnant l'hôtel, on s'était groupé autour de lui, et le gros chauchat, visiblement intrigué, passant son bras sous celui du slave, le prenait carrément à partie. « Moi, vous savez... Je l'ai toujours trouvée charmante, cette grande Nelly Fora, quoi qu'on ait clavolé ces messieurs. Peut-être un peu cher pour eux. » Et il soulignait d'un clignement d'yeux. Car elle n'opère que dans les grands prix, votre belle amie, dans le monde étranger surtout. Ses amants peuvent se compter. Ses années aussi. Interrompait Salus. Les raisins sont trop verts et bons pour les goujats. Ah, bah, chante la romance, poursuivait Chauchat, et s'appuyant familièrement sur le bras du slave. Voyons, vous qui les avez vus, mais qu'avait-il donc, ses yeux ? Ses yeux, mais ils sont bleus, d'un bleu vert un peu pâle. La mer, quand elle est grosse et moutonne, a cette teinte de bleu. Un bleu un peu verdâtre. Baudry, votre grand peintre, avait cette teinte de bleu quand il peignait les vagues, ces vagues où il met, ruisselantes d'écume, des corps de femmes si savoureusement blancs. Nous aimons beaucoup sa peinture en Russie, et Nelly avait ses yeux. Des yeux glauques, soulignait Fontenay. L'œil de la Néréide, appuyait Saluce. Des yeux de Lorelai, résumait le slave. Lorelai, la ballade de Schiller, vous connaissez en France. À quoi Chaucha, bon enfant et modeste, oui, Goethe aussi vaguement. Mais ses yeux, voyez-vous, ils ont maintenant autre chose, un charme à eux, comme un pouvoir qui vous attire, vous autres Français, bravés probablement, mais dont les hommes de mon pays seront toujours esclaves. Nelly Forêt n'est plus très jeune, mais elle peut impunément vieillir. Tant qu'elle aura ses yeux, tous les hommes du Nord, tous les êtres de la passion et de rêve, slaves ou danois, suédois ou russes, tous l'aimeront. Et comme tous se récriaient, Michel Soudoff, prévenant leur demande, les yeux de Nelly ont le filtre suprême, le filtre de la mort, l'attraction du néant. C'est le charme d'oubli qui dort en son regard. Et étant l'endormeuse, elle est par excellence la maîtresse adorée, car elle est magicienne. Cela n'est point parce que son œil est bleu, couleur du rêve, du ciel et de l'océan. Cela est quelque chose, certes, et sans cette couleur primordiale et céleste, les prunelles de Nelly ne posséderaient pas ce qui vit et songe en elles maintenant. Mais elles ont plus. Il y persiste le regard d'adieu d'une agonie. Il y pleure et survit la prière d'amour, éternellement, jeune, d'un amant mort en la regardant. Et comme tous échangeaient de muets coups d'œil, croyant à un coup de folie, sinon à une mystification, Michel Soudoff poursuivait. Une légende de mon pays veut que l'âme de l'amant mort, en regardant sa maîtresse, revive dans les yeux de celle-ci et lui donne l'éternelle jeunesse dans les désirs des autres hommes. Être toujours désiré, c'est ne jamais vieillir. Mon ami Serge Stregranov était alors l'amant de Nelly. Lui avait-il raconté ce conte de Moujik et l'énigmatique et fantasque personne que fut toujours Nelly? Eut-elle la tentation d'éprouver sur Serge la véracité de la légende? Toujours est-il que pendant leur séjour à Naples, une nuit que, selon leur habitude, ils étaient allés se promener en barque dans la baie de Capri, vers le matin, Neuilly rentrait comme une folle à l'hôtel sans son amant. Et là, blême, les dents s'entrechoquant d'angoisse, elle racontait au personnel accouru qu'au milieu de leur promenade, Serge, tenté par la température, avait voulu absolument se baigner, qui lui avait confié les rames, s'était dévêtu, avait quelque temps nagé derrière la barque, joyeux et folâtrant sous le clair de lune, puis, qu'à sa grande terreur, il s'était soudain enfoncé dans les flots et n'avait plus reparu. Et le lendemain soir, des mariniers de Torre del Greco retrouvaient le cadavre échoué sur le rivage. « Et vous supposez ?» interrompit Chaud. « Oh, je ne suppose rien. Mais je vois très bien Nelly, assise à l'avant de la barque et remuant doucement et poussant le bateau, tandis que nage à lentes et souples brassées mon regretté ami Serge. La lune les baigne tous deux comme d'une gaze de lumière, argentant le torse de Serge hors de l'eau et le corsage blanc de Nelly dans sa barque. Ils sont très beaux tous deux. Ils vont ainsi une heure se regardant dans les yeux, se souriant l'un à l'autre. Puis Serge se fatigue peu à peu, il s'essouffle. Il voudrait remonter et il dit à Neuilly « Arrête !» Nelly ne l'entend pas. La lèvre souriante le regarde dans le sien, elle rame doucement et le bateau fuit toujours. Serge, d'abord, croit qu'elle plaisante. La barque fuit imperceptiblement, et dans le sillon qu'en laisse Serge, se débat et s'enfonce, et autour d'eux, la nuit claire, la mer transparente, trempée de lune, immense, à l'horizon les collines violettes de Capri. Quelle belle nuit pour nous ouvrir, Serge a compris. Il bat la vague, il râle, de l'eau déjà plein la bouche, mais les yeux fixés sur les yeux de Nelly. Devant lui, la barque oscille. Elle sourit toujours, appuyant sur la rame, et l'eau mugit dans les oreilles de Serge s'agonisant, qui se cramponne en vain à l'écume des vagues et coule dans l'ombre verte et lunaire des flots. Et la barque maintenant regagne lentement Naples en rasant Capri. Et cette supposition, vous la basez sur... Sur le regard de Serge, que j'ai toujours retrouvé depuis dans les yeux de Nelly. Et avait-il au moins laissé un testament qui lui assura sa fortune ? Interrogeait le petit marquis. À quoi le slave avec un haut le corps dédaigneux de petite maîtresse ? Oh, ce serait bien vulgaire alors. Vous calomniez Nelly. Et puis, il ne faut pas faire mentir les légendes.